Nous sommes en compagnie d'Hervé Cardon, conseiller des Français de l'étranger, pour, j'allais dire, un passage obligé, les bons voeux en ce début d'année 2023. Hervé Cardon, écoutez, on vous laisse vous exprimer auprès de notre communauté.
Oui, bon, bonjour à tous. Je voulais surtout vous parler des perspectives au seuil de 2023, des perspectives qui nous attendent vraisemblablement. Alors d'abord, sur le plan local, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de changements. En dépit de promesses en trompe-l'œil du gouvernement, des promesses mirifiques, je vais prendre deux exemples pour que vous compreniez à quel point tout ça est en trompe-l'œil. Deux problèmes qui vous concernent, qui vous tiennent beaucoup à cœur, je le sais. Le problème de la délivrance des documents officiels, qui effectivement pose problème depuis un bon moment. Alors, Monsieur Vojetta, le député LREM d'appellation d'origine non contrôlée, nous fait miroiter deux choses. Il nous dit, on va faire une dématérialisation pour les documents administratifs, et puis on va même, au miracle, il va y avoir une connexion, un échange d'informations direct entre États, ce qui fait que vous n'aurez plus rien à faire, en tout cas pour ce qui concerne la retraite, tout ça va se faire miraculeusement. Bon, alors il oublie juste de nous dire que dans le premier cas, ça prend quelques bonnes années, au moins 1 ou 2 ans, on en a l'expérience. La dématérialisation, plus les tests qu'il faut faire quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. Et pour le deuxième sujet, juridiquement, là, on sait déjà que pour le Portugal, on aura droit peut-être à ça, à ces échanges d'informations directes, mais entre États, mais uniquement d'ici 1 an, voire 2. Bon, donc, si vous voulez, Monsieur Vojetta, il se part des plumes du banc, mais enfin, d'abord, premièrement, son intervention ne sert à rien. Et il n'a rien fait pour. En fait, on ne lui doit rien à ce sujet, puisque tout était déjà préparé et mis en route au niveau du ministère, dans les cartons du ministère, bien avant son mandat. Deuxième exemple qui vous touche aussi, c'est la scolarisation des enfants français dans des établissements français à l'étranger. Alors là, c'est encore plus mirifique. Ça, c'est M. Macron qui a un plan merveilleux, plan pharaonique, qui s'appelle Horizon 2030. Alors là, il prévoit la scolarisation, tenez-vous bien, de 700 000 Français dans les établissements français d'enseignement du monde. Alors, ça me fait un peu rire parce que, sachant que les chiffres actuels sont de 390 000. Bon, le taux de croissance de ces dernières années, et en mettant toutes les ressources budgétaires possibles en route, et ceux qui sont pas, qu'on ne peut pas multiplier à l'infini, mais enfin, même si on les améliore un peu, le trend actuel de ces dernières années, il était de 2,2%. Donc, un petit calcul, je ne suis pas bon mathématicien, mais enfin, un petit calcul nous donne au maximum 400 000 élèves scolarisés. En 2030, M. Macron, les yeux fermés, nous dit, il y en aura 700 000. Cherchez la petite différence. Moi, j'appelle ça vraiment jeter de la poudre aux yeux. C'est scandaleux de se moquer des électeurs comme ça. Bon, alors, le seul point, un petit peu lueur d'espoir sur le plan portugais, un point positif enfin, c'est l'amélioration de la délivrance des documents d'identité par le consulat. Et si on prend les statistiques de l'année dernière et celles de l'année d'avant, on est passé de 4 000, émission d'environ 4 000, à environ 5 000 documents. Donc, c'est une amélioration notable. Compte tenu du fait, donc, si on extrapole et qu'on fait des petits calculs avec la communauté française d'ici, on s'aperçoit que il y a évidemment un écoulement de stock dû aux années de Covid, à faire, mais ceci étant fait, il va se faire. On pourrait raisonnablement penser qu'à ce train-là, on arrivera à une normalisation à terme relativement court, malgré tout, qu'on va enfin voir le bout du tunnel. C'est la seule bonne nouvelle que j'ai à vous donner. Pour ce qui concerne la France métropolitaine, par contre, alors, pour le constat, il n'y a pas besoin de boule de cristal, hein. Il suffit d'écouter les médias libres, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas les grands médias à la botte, qui constituent la Pravda française actuelle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là, on y voit le quotidien de la France, des attaques terroristes au couteau, de l'ensauvagement, des zones de non-droit, des agressions de policiers, pompiers, médecins dans tous les coins, des rodéos urbains partout tous les jours, et tout ça sur toile de fond de multirécidivistes, fichés S, et immigré clandestin, qui tout ça se balade tranquillement en liberté sans être nullement inquiété. C'est ce qui leur permet de multi-récidiver, naturellement. Sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, il suffit aussi et surtout d'écouter les déclarations hallucinantes et décomplexées de nos gouvernants. Je prends juste trois exemples. D'abord, l'ineffable Darmanin, l'éternel incompétent, qui, après les incidents de la fin, de la fin de l'année, de cette fin d'année, où il y a eu des centaines d'arrestations, des centaines d'agressions, 500 interpellations quand même, et près un peu moins de 1000 véhicules incendiés, et ben, qu'est-ce qu'il déclare, lui, dans son communiqué final ? Rien de notable. Rien, je répète, rien de notable. Ensuite, Macron le petit. Alors lui, il prêche à chaque discours son idéologie, son créneau, je dirais même son créneau immigrationniste, et il se dit toujours prêt, comme les Boy Scouts, à accueillir tous les jours davantage de bateaux de centaines de migrants, bateaux d'ONG mafieuses la plupart du temps, et en plus bénis et subventionnés par l'Union européenne. C'est quand même le pompon. Et enfin, troisième et bel et dernier exemple, le papadiaï de l'éducation nationale, alors qui déclare froidement que, je cite, comment il dit exactement ? Oui, c'est ça, que pour faire barrage à l'islamisation croissante dans les écoles, au moins il le reconnaît, c'est l'affaire, tenez-vous bien, écoutez bien, c'est l'affaire des enseignants. Merci Samuel Paty. Monsieur Macron, en bon caniche de l'Union européenne et des États-Unis, vient de livrer une série de chars de combat français à l'Ukraine. Mais ce faisant, il vous fait endosser le statut qui est dangereux, qui est périlleux, le statut de belligérant de fait, avec toutes les conséquences graves et dangereuses qu'on peut avoir diplomatiquement, juridiquement, voire militairement, un de ces quatre matins. Pour conclure, il y a quand même peut-être deux petites lueurs d'espoir, je dirais, en 2023. L'existence à présent d'abord d'un groupe important d'élus du Rassemblement national qui peut peut-être contribuer, il essaye au moins de limiter les dégâts partout où il peut, de colmater les brèches et de commencer à préparer une renaissance future, mais qui reste future malheureusement, sauf événement. Et deuxième point et dernier point, la création parallèlement, ça nous concerne et ça nous concernera, je vous en reparlerai un peu plus dans une prochaine intervention peut-être, la création d'un comité de liaison des nationaux pour permettre à toutes les bonnes volontés de pouvoir se concerter et s'unir dans toutes les occasions où ça permettra d'avancer au moins d'un pas, de marquer un point, pour avancer dans la direction du redressement national, qui est quand même l'objectif final. En résumé et en conclusion, en 2023, on peut s'attendre à de fortes turbulences, donc accrochez vos ceintures. Voilà, Jean-Guillaume, ce que la vision un peu pessimiste, mais réaliste que j'avais à vous livrer.
Merci beaucoup, Hervé Cardon, pour cette analyse. Et bonne année quand même.
Ben oui, malgré tout. Gardons l'espoir.